avec celle qui nous raconte des histoires dont elle seule connaît le début, le milieu, la fin.
C'est mieux quand on raconte une histoire.
Oui, mais parce qu'on peut dire elle connaît la fin des histoires, mais elle connaît aussi le milieu.
C'est mieux, c'est mieux.
Et oui, parce que c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Attention, Clémentine, je vais donner d'abord le thème de votre chronique du jour. Nous prenons la direction de la Russie et la rencontre de Pouchkine. Pouchkine était un immense écrivain, un poète, mais il était un peu jaloux.
Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Et alors surtout qu'il a épousé une femme qui était vraiment plus jeune que lui, et extrêmement ravissante, en février 1831, la ravissante Natalia Goncharova, une jeune fille merveilleuse, mais aussi très coquette et très exigeante. Et pour satisfaire son train de vie et celui des 4 enfants qu'ils vont avoir ensemble, Pouchkine va passer son temps à courir après l'argent. Et ça le rend, c'est très pénible pour lui, parce que d'abord, il est dépendant du tsar, il a besoin d'être pensionné. Or, dans ses œuvres, il conteste l'autoritarisme et l'absolutisme du tsar. Et par ailleurs, il sait également que sa jeune femme est au goût du tsar. Donc ça le met dans une situation très humiliante de celui qui est l'obligé d'un tsar dont il conteste l'autoritarisme et dont il sait que sa femme, sa propre épouse lui plaît. C'est très pas facile d'être un opposant nécessiteux, en somme, si vous voulez. Et à l'époque, malgré l'interdiction légale, le duel est une pratique très courante dans l'aristocratie. On se bat sous les contextes, sous les prétextes les plus futiles. Et Pouchkine lui-même s'est très souvent battu en duel. Et il portait sur lui une sorte de canne en fer assez lourde. Alors, pas la canne pour administrer le supplice de la roue dont je vous ai parlé un jour, mais pour se muscler le bras, en fait. Pour que mon bras se raffermisse et ne tremble pas au cas où je devrais tirer. Je me permet de prendre cet accent parce que Pouchkine parlait parfaitement le français aussi bien que le russe, sa langue natale. Alors en 1823 par exemple, il provoque en duel un certain Zubov. Vous vous souvenez de Zubov? Ça vient de la famille de l'amant de Catherine Deleuze. Oui. Zubov, Platon Zubov qui avait 28 ans de moins qu'elle. Alors ce Zubov-là, Pouchkine l'accuse d'avoir triché au jeu. Donc il provoque en duel et il se retrouve. Imaginez la scène. Vous avez Zubov avec son pistolet et en face Pouchkine, qui lui a un cornet de cerises. Il mange des cerises, il n'est pas armé, il mange des cerises, il crache les noyaux en direction de son adversaire, qui lui tire dessus, le loupe, et Pouchkine, qui donc ne tire pas, puisqu'il a que ces cerises, qui lui dit « ça va, vous êtes content maintenant, vous êtes satisfait ?» Vous voyez le panache du bonhomme. Ces thèmes du duel, de la jalousie, de l'humiliation sont très présents dans l'œuvre de Pouchkine, à tel point que dans une de ses œuvres principales, Eugène Onéguine, il prophétise très exactement ce qui va lui arriver à lui dans la réalité, parce que Eugène Onéguine, ce personnage a un meilleur ami qui est un jeune poète qui s'appelle Lenski. Et un jour, Onéguine, par bravade, sert d'un peu trop près la fiancée de Lenski dans un bal. Lenski est furieux, il se bat en duel et Lenski meurt. Et c'est très exactement ce qui va arriver à Pouchkine. Par le fait d'un Français d'ailleurs, hein, c'est un petit peu dommage ça, cette histoire-là, mais c'est un jeune homme qui s'appelle le baron de Georges Dantès, il a le nom d'un héros d'Alexandre Dumas, et il est originaire d'Alsace, il arrive à Saint-Pétersbourg en 1833, et il est adopté par un certain baron von Eckeren, qui est ambassadeur de Hollande. C'est ce jeune homme, il est dans l'escadron des cavaliers gardes du tsar, un grand blond élégant qui adore les jeunes femmes, et qui est aussi vraiment être dans la provocation et séduire les femmes mariées. Ça l'excite, ça lui plaît. Alors, il va commencer à faire une cour ardente à la femme de Pouchkine. Il multiplie les rencontres, il l'emmène à la promenade, au théâtre, au bal.
Et pourquoi elle accepte ?
Mais elle accepte parce qu'elle rend son mari jaloux, parce que c'est une jeune femme jolie, un peu futile, qui aime bien qu'on la courtise. Je pense qu'elle ne prend pas la mesure de l'état de jalousie épouvantable dans lequel est plongé son mari. Et à tel point d'abord, ils dansent à un bal chez la comtesse Volkovsky, la princesse Volkovsky. Ils dansent ensemble, ils la serrent de près. Pouchkine est dévoré par la jalousie. Et alors, en plus, cette cour commence commence à faire jaser et un jour, Pouchkine reçoit une lettre anonyme où il est nommé à l'unanimité coadjuteur du grand maître de l'ordre des cocus. Ça fait plaisir. Et en plus, là, dans la lettre en question, on explique que sa jeune femme a aussi une liaison avec le tsar. Donc il est furieux. Il écrit une lettre injurieuse à Dantès et le duel est inévitable. On essaie de l'éviter. Le père adoptif de Dantès lui dit, écoute, épouse la sœur de ta Goncharova, elle a une sœur qui n'est pas mariée, donc ça va se faire, le mariage se fait, mais il se marie avec cette jeune femme et il continue à draguer l'autre, si vous voulez. Donc pour Pouchkine, c'est insupportable et ça va finir sur le pré le 27 janvier 1837.
Chute de lunettes.
Chute de lunettes. Alors, le 27 janvier 1837, Pouchkine sort dans la rue, il rencontre le premier de ses copains venu, un certain Danzas, il lui dit va m'acheter des pistolets, il lui donne rendez-vous à la confiserie Wulf sur la perspective Nevski. Aujourd'hui, c'est là où se trouve le café Pouchkine. Donc, si un jour vous allez à Saint-Pétersbourg, devant le café Pouchkine, c'est là que Pouchkine récupère les pistolets pour aller se battre avec Dantès. Dantès tire le premier. Il blesse Pouchkine à la cuisse. Pouchkine réplique. Il touche Dantès au bras. Second coup, Pouchkine est touché en plein ventre. Il s'effondre, le visage sur le sol et la neige aussitôt imbibée de son sang, parce que ça se passe en janvier, donc il y a de la neige à Saint-Pétersbourg. Son agonie va durer deux jours d'affreuse souffrance où il sera d'un courage, d'une fermeté extraordinaire. Il n'avait que 37 ans et il était au sommet de son talent. Et figurez-vous que par un curieux fait du hasard, les deux pistolets qui ont servi à ce duel sont aujourd'hui, vous les avez vus, Stéphane, bien sûr, vous les avez vus, ils sont à Amboise, ils sont la propriété de la ville d'Amboise, et c'est quand même très bouleversant de se dire...
Parce que
c'était un Français qui les avait prêtés à ce fameux Danzas, donc ils sont revenus en France, ils sont passés dans une vente aux enchères, donc voilà, ils sont maintenant la propriété de la ville d'Amboise, vous pouvez aller les voir là-bas. Et voilà.
Mais c'est que l'histoire a retenu le nom de Pouchkine et pas celui de M. Dantès.
Dantès a été retenu comme le comte de Monte-Cristo dans une autre affaire. Voilà, enfin, en tout cas, le plus grand poète russe qui nous dit « Troïa aima la vie avec fureur et avec imprudence », eh bien, il est mort de la main d'un Français avec des pistolets qui sont maintenant à Amboise. Fin du plus grand des poètes russes.
Tout ça à cause d'un duel.
Merci, Clémentine.